I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Régulièrement dans l'actualité, on suit avec effroi des affaires judiciaires concernant les violences faites aux enfants. Alors évidemment, chaque cas est différent. Les mécanismes à l'œuvre dans un déni de grossesse ou un déni d'enfant, comme c'était le cas dans l'affaire récente de la petite Serena que sa mère a caché 2 ans durant dans une pièce au sous-sol et dans le coffre de sa voiture, sont bien différents de ceux qu'on retrouve dans une affaire de mœurs ou de violences quotidiennes et répétées exercées par un parent sur son enfant. Mais un élément a tendance à revenir. Bien souvent, les acteurs médico-sociaux, ceux qui sont chargés de veiller, de détecter les comportements anormaux, se retrouvent plus ou moins implicitement accusés d'avoir trop tardé à agir, d'être arrivés trop tard, de n'avoir pas vu ou pas su voir qu'il y avait un problème. Alors, est-ce que c'est si vrai que ça? Pourquoi a-t-on le sentiment que les acteurs sociaux sont presque plus mis en cause que les parents eux-mêmes? Quelle est la réalité des violences faites aux enfants en France en 2018? Est-ce qu'on ne sacralise pas un peu trop la famille jusqu'à refuser de voir ce qu'il s'y passe parfois? Et surtout, comment faire évoluer les choses? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Avant de commencer, je précise que cet épisode n'est pas à mettre entre toutes les oreilles parce qu'il y a question de violence, de maltraitance et de cas parfois assez difficiles à écouter. Pour démarrer, je me suis tourné vers un acteur du terrain, quelqu'un dont le quotidien est rythmé par ses affaires qui parfois vont jusqu'aux tribunaux. Elle s'appelle Agnès Naudin, elle est capitaine de police dans une brigade de protection de la famille. Elle a tiré de son expérience un livre paru au Cherche Midi baptisé « Affaires de famille ». Je lui ai demandé concrètement à quel type de violence faite aux enfants elle était le plus souvent confrontée au sein des familles.
Alors dans les violences intrafamiliales, par rapport aux enfants, celles qu'on voit souvent, c'est des corrections, ce qu'on va appeler des corrections, entre guillemets, qui sont inadaptées. Alors là, il n'y a pas longtemps, à l'Assemblée nationale, ils ont voté de façon symbolique l'interdiction de la fessée. Donc effectivement, on voit bien qu'on est dans un pays dans lequel on tend à punir et à interdire tous les châtiments corporels, puisque c'est comme ça qu'on les appelait avant. Et donc effectivement, on va avoir, nous souvent, c'est des enfants qui sont fouettés avec des câbles de téléphone, où on peut leur tirer les cheveux, où on les frappe avec les mains ou avec les pieds, de façon récurrente, sans aucune raison valable, justifiée, où les enfants sont pas capables de nous dire ah bah, parce que j'ai fait une bêtise ou ce genre de choses-là. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a eu 2 enfants, où il n'y a pas d'ITT, c'est-à-dire que sur le certificat médical, il n'y a pas de, on ne voit pas des lésions, on ne voit pas de bleu, il n'y a pas de fracture. Et pour autant, voilà, les 2 enfants expliquent qu'ils se font taper régulièrement avec les mains, avec les pieds et sans aucune raison. Donc on va quand même lancer une enquête pénale là-dessus. Voilà, ça fait partie des violences les plus courantes.
Comment est-ce que la police en arrive à intervenir au sein de la famille? Comment ça se passe le signalement? Je ne sais pas si c'est le terme exact ou si ça s'applique plus aux services sociaux, mais le signalement, oui, donc de ces violences.
Non, alors le signalement, ce n'est pas un terme qui est propre aux services sociaux. Le signalement, c'est un terme qui est propre à donner une information au procureur. Donc, donner cette information au procureur, c'est toujours le même circuit que ça parte de l'école, des services sociaux ou du milieu institutionnel en règle générale. Ils font ce qu'on appelle des IP. Alors, on est dans l'éducation nationale, c'est des informations préoccupantes. Donc, ils envoient un signalement à la CRIP. À la CRIP, c'est la cellule de recueillement des informations préoccupantes qui, elle, va remplir un papier avec les principales caractéristiques et va le transmettre au procureur. Et une fois que le procureur l'a, il va envoyer le signalement dans le service de police qui convient. Donc, ça permet au procureur d'avoir toutes les remontées sur son département et sur les affaires qui le concernent. Ça permet de ne pas en oublier. Ça permet de ne pas se perdre. Enfin, il y a un cheminement, donc il n'y en a pas 15. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas à qui s'adresser puisque c'est dans la loi et c'est inscrit comme ça. Alors après, on a souvent le problème pour les personnes qui sont dans les écoles ou dans les foyers associatifs ou autres, dans les associations. La question, c'est de savoir est-ce que je signale ou est-ce que je signale pas, et non pas à qui je signale. Et souvent, j'ai le cas d'avoir des directeurs d'école qui disent oui, mais dans ces cas-là, on ne sait pas trop quoi faire, la parole de l'enfant, c'est pas évident. Et j'ai souvent tendance à dire, quand vous savez pas, le mieux, c'est d'appeler et puis de demander. Comme ça, nous, on peut vous orienter aussi, vous dire ce qui est le plus opportun à faire. Voilà. Quand on ne sait pas, il vaut mieux partager l'information, je pense, que de la garder pour soi.
Est-ce que c'est ça qui fait qu'on entend souvent cette remarque faite souvent lorsqu'il y a des grandes affaires ou des affaires très médiatiques autour des violences faites aux enfants, qu'on intervient souvent trop tard? Le signalement, justement, se fait souvent trop tard. C'est quelque chose que vous constatez aussi, que cette hésitation à justement faire la démarche de signaler fait que quelquefois on arrive assez tard sur ces affaires-là, sur des violences qui sont très très installées?
Alors, trop tard, ça me dérange dans le sens où c'est comme si en majorité, le système tel qu'il était conçu faisait qu'on ne pouvait pas protéger les enfants. Et moi, je ne pense pas que c'est ça, parce qu'on a ce qu'il faut pour le faire. Après, c'est au cas par cas. Si je dois la rapporter aux femmes battues, prenons l'exemple de Jacqueline Sauvage. Cette femme, tout le monde savait qu'elle était battue. Personne n'a rien fait, les gens n'ont pas... Et donc on en arrive effectivement à un moment donné où on est dans une situation critique, elle finit par tuer son mari, là c'est trop tard, on aurait pu réagir avant. Oui. Donc finalement dans le trop tard, moi ce que j'entends c'est que souvent, tout le monde peut faire quelque chose et personne ne le fait en se disant que c'est l'autre qui va le faire. Oui. Donc c'est les voisins qui se disent que c'est pas, ça les regarde pas et que même s'ils entendent crier, c'est pas leur problème. C'est l'école qui va pas nécessairement, par exemple, vraiment prendre en compte un enfant qui dira pas forcément les choses mais qui ira pas bien ou qui le formulera de façon différente et étant entendu que les enfants ne communiquent pas comme nous. Et que du coup, il faut apprendre à essayer de faire attention au non-verbal. Et c'est pas forcément évident. Et quand on est souvent une maîtresse pour 35 enfants, c'est plus compliqué, même s'il y a les ATSEM qui sont là pour les aider. Donc le trop tard, c'est comme si finalement on rejetait la faute sur les gens, alors que pour moi, c'est plus une responsabilité commune qu'une responsabilité individuelle. Mmh. Et je suis pas sûre que ce soit nécessairement que le système qui soit le problème.
On parlait du recueil de la parole des enfants qui est difficile. Vous, c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien. Comment est-ce qu'on recueille la parole des enfants maltraités, des enfants battus? Comment est-ce qu'on parvient à justement percer un peu le secret qui peut recouvrir la cellule familiale?
Alors déjà, le plus important et le mieux, et je ne cesserai de le répéter, c'est que quand un enfant dénonce quelque chose, surtout ne pas poser de questions. Ça peut paraître bête, mais là par exemple, quand j'ai entendu une gamine ce matin, donc 4 ans, quand elle a déclaré certaines choses à sa mère, elle lui a posé tout un tas de questions. Ensuite, elle est allée en parler à son mari, le mari est revenu, a reposé les mêmes questions à la petite fille. Donc à 4 ans, elle dit quelque chose qui lui paraît normal et en même temps lui pose tellement de questions que voilà. Et quand après derrière elle vient chez moi et que je lui repose encore des questions, potentiellement le discours peut avoir changé. Donc, un enfant, et surtout vis-à-vis de ses parents, quand on lui pose deux fois la question, la deuxième fois il se dit « Ah tiens, j'ai pas donné la bonne réponse la première fois, donc je vais changer parce qu'il faut que je lui fasse plaisir. » Ou alors, quand l'enfant déclare quelque chose et que le parent se met à pleurer par exemple, il se dit « Tiens, ce que j'ai dit, ça l'a fait pleurer, c'est pas bon, donc je vais me taire ou je ne vais rien dire parce que ça ne lui fait pas plaisir. » Donc ça, c'est quelque chose... Alors, je sais, c'est très facile à dire et c'est pas facile à faire. Et souvent, les gens le font pensant bien faire, mais voilà. Donc voilà, s'il y a un message à faire passer aux parents, c'est quand vous entendez quelque chose qui sort de l'ordinaire, vous essayez, dans la mesure du possible, de ne pas changer votre comportement, de poser le moins de questions possible, et voilà. Et ensuite, d'aller porter plainte, de façon que, quand nous, on va intervenir... c'est la première fois qu'on lui pose des questions et donc il va raconter son histoire de la façon la plus libre qu'il soit et il n'aura pas changé de version. Et quand on reçoit les enfants, on les reçoit dans une salle qui est faite pour ça, avec des jeux, voilà, pour recréer un peu un univers d'enfant et le mettre en confiance. On a toute une façon de mettre en place, c'est-à-dire l'entretien, de mettre une relation de confiance, de lui poser des questions, pour voir un peu déjà où il se situe par rapport à sa vie, son contexte, qui sont les gens qui vivent avec lui à l'école, et comment ça se passe, et les copains, les loisirs. et tout ça. Et une fois qu'on a posé toutes ces questions et qu'on voit un peu la façon de parler, la façon de réagir et si l'enfant est réticent ou pas, on commence à poser des questions sur si c'est la raison pour laquelle il est ici. Puis petit à petit, on va l'amener à parler de ce que l'enfant a déclaré. Mais on essaye toujours de lui faire dire les choses sans que nous, on lui pose la question directement. Donc l'idée, c'est justement de ne pas induire le discours et de poser les questions les plus larges possibles pour que l'enfant parle et que les questions soient les moins suggestives. Voilà. Et quand on ne peut pas le faire chez nous, parce que ça nous arrive aussi régulièrement, dans ces cas-là, on va dans les écoles.
Oui.
Donc là, c'est moins confortable, forcément, parce que... Enfin, c'est pas que l'endroit n'est pas approprié, parce que ça reste une école et que c'est un endroit qu'ils connaissent. Ça doit être plus rapide, c'est un univers qui n'est pas, ouais, qui est pas forcément le nôtre.
On le disait tout à l'heure, le signalement, ça passe notamment par ça peut passer notamment par l'école, par les milieux institutionnels, on va dire. Est-ce que ces milieux-là, justement, sont suffisamment aguerris, formés à détecter potentiellement des violences ou des situations anormales ?
Je n'ai pas eu et je n'ai jamais entendu de situation qui ait échappé à l'école, qu'ils n'ont pas vu, enfin, des trucs dramatiques, généralement, c'est chez eux que ça vient, donc je suppose qu'ils savent le faire. Et dans les foyers ou dans les milieux qui sont suivis, parce qu'on a souvent ça aussi, des familles qui sont suivies dans un cadre administratif ou judiciaire avec des enquêtes, ce qu'on appelle en milieu ouvert, etc., qui sont donc en contact avec les familles, les enfants, et où les enfants se confient, enfin, les enfants, les ados aussi, et les signalements viennent de leur part. Donc, ce que je vois, c'est que moi, dans les rapports que j'ai avec eux, on travaille vraiment en bonne intelligence, on se concerte beaucoup. Donc en fait, c'est pas nécessairement plus la formation des gens qui travaillent sur le terrain que la multiplication de ces intervenants-là. C'est un problème aussi pour eux,
oui,
c'est-à-dire ça, cette multiplication d'intervenants fait que forcément, les informations, c'est pareil. Elles arrivent généralement un peu au compte-goutte, un peu... Voilà, ils n'ont pas forcément toutes les informations. Ça, c'est une vraie question, ça.
Car oui, sur le terrain, ils sont nombreux à agir. Des acteurs institutionnels, mais aussi de nombreux associatifs. C'est notamment le cas d'une structure que les gens de ma génération connaissent bien, Enfance et Partage, qui depuis 40 ans met ses bénévoles au service de la protection des enfants. Je suis allé dans leurs locaux à Paris rencontrer Marie-Pierre Colombelle, la présidente d'Enfance et Partage, et j'ai fait avec elle ce constat. On a du mal, vu de l'extérieur, à avoir une idée précise de la réalité des violences faites aux enfants en France en 2018.
C'est bien le problème, hein. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de chiffres. Pas de chiffres qui remontent. Alors, vous avez les chiffres quand même de l'ONPE, hein, qui est l'Observatoire National de la Protection de l'Enfance. Et puis, vous avez les chiffres des associations qui, quand même, ne sortent pas ça de leur chapeau. Hein. On a notamment les chiffres d'Anne Turz, hein, qui est une chercheuse à l'INSERM, et qui... D'après elle, et je crois que, enfin, je crois pas, les associations ont souvent annoncé ce chiffre-là, dont Enfance et Partage, c'était 2 enfants meurent par jour. D'après les instances et l'ONPE, c'est 2 enfants meurent par semaine. Mais c'est quand même impressionnant. Hein, on est quand même. La réalité, c'est que, oui, il y a des violences inouïes en France. Je crois que le public en est effectivement pas du tout conscient. On se rend compte que le public dit « mais c'est pas possible, non, mais là vous vous trompez ». Mais non, on se trompe pas, on a quand même beaucoup de dossiers, hein. C'est toujours compliqué à faire entendre ce genre de raisonnement auprès du public.
Pourquoi c'est compliqué? C'est une réalité qu'on ne veut pas voir?
Longtemps ça a été tabou, longtemps les gens n'ont pas parlé, parce que c'était intrafamilial et que ça ne regardait pas les autres. Les victimes... Pour bien les connaître, on sait que ces personnes fragiles ont honte, qu'elles se sentent coupables, qu'elles se disent « bah oui, c'est normal, ça se passe partout pareil, mais surtout, je ne veux pas en parler à mon petit copain ou ma petite copine parce que ça doit être pareil chez elles, chez eux. » Oui, ça a longtemps été tabou.
On a l'impression que demeure une sorte de sacralisation de la cellule familiale et que donc ce qui s'y passe ne doit pas sortir de cette cellule. Et que j'ai l'impression que c'est le frein principal dans votre travail à vous, Enfance et Partage, de réussir à rentrer dans cette cellule familiale et de comprendre ce qui s'y passe.
Et oui, c'est sûr que pouvoir rentrer dans la cellule familiale, c'est pas facile, même pour nous. Nous avons toujours une version des faits. C'est-à-dire la personne qui nous appelle soit au numéro vert, soit dans les comités. Et après, il faut aller chercher l'information ailleurs. Alors, où est-ce qu'on va chercher l'information? On va la chercher auprès du conseil départemental, des travailleurs sociaux. Mmh. On peut aller la chercher. Alors, on demande le plus possible de pièces. Alors, ce qu'on appelle les pièces, c'est-à-dire les différents jugements, parce que bien souvent, les gens ne comprennent pas toutes les procédures qui existent. On a des procédures différentes selon le type de fait qu'on nous raconte. Ça peut être du pénal, ça peut être de l'assistance éducative. Donc là, c'est un juge des enfants, le pénal, c'est le parquet. Mmh. Tout ça, déjà, dans un premier temps, c'est quelque chose qu'il faut qu'on explique aux familles. Et ma foi, ils ne comprennent pas toujours du premier coup, parce que c'est complexe et qu'il faut assister. Ils reviennent à la charge. Donc il y a une grande écoute de la part des bénévoles. Et cette écoute, elle ne se situe pas une fois, elle se situe deux fois, parce qu'il y a l'écoute, mais il y a l'accompagnement après.
On entend souvent dans les affaires très médiatiques de maltraitance, celles qui vont parfois jusqu'à la mort des enfants et donc jusqu'au pénal, jusqu'à des procès d'assises qui sont très très suivis dans la presse. Et j'imagine pas représentatif à 100% de ce qu'est réellement la maltraitance. Les acteurs sociaux sont souvent interrogés dans ces procès et font souvent état des difficultés qu'ils ont à travailler. Mmh. Vous qui travaillez en lien avec eux, c'est aussi une réalité que vous constatez?
Alors oui, oui. Moi, je crois qu'il faut être clair là-dessus. Les services sociaux, ont des difficultés, manque de moyens humains, manque de moyens financiers. Donc oui, il y a une réelle difficulté, qu'au niveau du conseil départemental, mais aussi au niveau des tribunaux, en tout cas au niveau des juges des enfants, oui, il y a une réelle difficulté, il faut en être conscient.
Ça donne l'impression que la maltraitance n'est pas censément une priorité en termes de politique publique. Est-ce que vous aussi, vous le ressentez du côté d'Enfance et Partage?
Enfance et Partage existe depuis 40 ans. On n'est pas la plus vieille association qui nous occupe de la protection de l'enfance. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que, bien sûr qu'il y a eu des progrès, il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Bien sûr qu'il y a eu des progrès, il y a eu énormément de lois qui ont permis d'améliorer la condition des enfants et il y a eu énormément d'évolutions. On a eu quand même la loi du mois de mars 2016, initiée par Laurence Rossignol, et cette loi quand même, elle a différents axes. Qui permettent d'améliorer cette protection de l'enfance. Il suffit de les mettre en œuvre. Et par rapport à la question que vous me posiez auparavant sur les difficultés que peuvent avoir les conseils départementaux, c'est ça en fait. Laurence Rossignol a sorti une loi. Agnès Buzyn, elle a bien repris le flambeau. Mais il faut qu'ils se donnent les moyens. Oui, il faut qu'ils se donnent les moyens. Est-ce qu'ils se rendent compte que... C'est bateau, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Mais franchement, moi j'adore cette phrase. Voilà, c'est vrai. Enfin, les enfants qui ont été battus ne deviennent pas systématiquement des parents maltraitants. Mais des parents maltraitants ont souvent été, alors je ne connais pas le chiffre, mais on n'est pas loin des 90% des enfants maltraités. C'est la réalité, donc quand on est sur une réalité comme ça, on en revient à la prévention et au fait qu'il faut éduquer non seulement les enfants depuis qu'ils sont tout petits, leur dire que les maltraitances, la violence, ça ne se fait pas, et il faut éduquer aussi les parents, les jeunes parents. Nous, on a un service Allo Parents Bébé, qui est un service d'aide et de soutien à la parentalité, qui est donc une plateforme d'écoute tenue par des psychologues qui s'adressent aux parents dont les enfants ont 0 à 3 ans. Et cette aide et ce soutien à la parentalité, il est essentiel parce que ça permet aux parents d'être confortés dans leur rôle de parents. Quand on raconte l'histoire de l'association, on se rend compte qu'on s'est occupé d'abord des enfants. Après, on s'est occupé des parents, du soutien à la parentalité. Et puis, on a élargi et on s'est dit, mais ensuite, il y a les professionnels qui s'occupent de la petite enfance. Voilà, et ça, ça fait comme un escargot autour de l'enfant, qui, lui, est notre préoccupation première.
Mmh.
On peut, sans trop s'avancer, se dire que les récentes actualités dans le domaine du social ont fait passer au second plan la mise en place de ces mesures. Pourtant, il y a clairement urgence. C'est notamment ce qu'ont fait comprendre les juges du tribunal pour enfants de Bobigny il y a quelques semaines, lorsqu'ils ont alerté publiquement sur les délais insensés qui existent entre la demande de mise en place d'une aide pour les enfants en danger et son application concrète, qui dans certains cas peut prendre jusqu'à 18 mois. Ça aussi, ça a de quoi nous plonger dans une forme d'effroi. Merci à Agnès Naudin et Marie-Pierre Colombel pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Théo Boulanger. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.